Le lombard du pape.
À Lyon, les cardinaux étaient toujours enfermés. Ils avaient cru lasser le régent. Leur réclusion durait depuis un mois. Les 700 hommes d'armes du comte de Forest continuaient de monter la garde autour de l'église et du couvent des frères prêcheurs. Et si, pour respecter les formes, le comte Savelli, maréchal du conclave, conservait les clés sur lui en permanence, ces clés ne servaient pas à grand-chose, puisqu'elles ne s'appliquaient qu'à des portes murées. Les cardinaux, jour après jour, transgressaient la constitution de Grégoire, et cela d'une conscience d'autant plus légère qu'on avait envers eux usé de la contrainte et de la violence. Ils ne manquaient pas de le dire jour après jour au comte de Forez, lorsque celui-ci montrait sa tête casquée par l'étroit orifice qui servait à passer les vivres. À quoi, jour après jour, le comte de Forez répondait qu'il était tenu de faire respecter la loi du conclave. Ce dialogue de sourds pouvait se poursuivre longtemps. Les cardinaux ne logeaient plus ensemble, comme le prescrivait la Constitution. Car bien que la nef des Jacobins fût vaste, y vivre à près de 100 personnes sur de simples jonchées de paille était devenu bien vite insupportable. Et d'abord par la pestilence qui se dégageait dans la chaleur de l'été.
Ce n'est pas parce que notre Seigneur est né dans une étable que son vicaire doit nécessairement être élu dans une porcherie, disait un cardinal italien.
Les prélats avaient donc débordé sur le couvent qui communiquait avec l'église et s'inscrivaient dans la même enceinte. Repoussant les moines, ils s'étaient arrangés tant bien que mal à trois par cellule ou par chambre de l'hôtellerie, laquelle se trouvait évidemment fermée aux voyageurs. Chapelains et damoiseaux occupaient les réfectoires. Le régime alimentaire décroissant n'était pas davantage observé. L'eût-il été, on n'aurait plus eu bientôt qu'une assemblée de squelettes. Les cardinaux se faisaient donc envoyer quelques gâteries de l'extérieur qu'on prétendait destinées à l'abbé et aux moines. On appliquait beaucoup d'habileté et de constance à violer le secret des délibérations. Des lettres chaque jour entraient au conclave ou en sortaient, glissées dans le pain ou entre les plats vides. L'heure des repas de la sorte devenait l'heure du courrier et la correspondance qui prétendait régler le sort de la chrétienté était fort tachée de graisse. De tous ces manquements, le comte de Forez instruisait le régent, lequel semblait s'en féliciter. « Plus ils auront commis de fautes et d'inobservances, déclarait Philippe de Poitiers, et mieux nous serons en mesure de sévir quand nous en prendrons décision. Pour les missives, laissez-les s'acheminer en les ouvrant au passage aussi souvent que vous le pourrez, afin de m'en révéler le contenu. » Ainsi fut-on averti de 4 candidatures qui achouèrent presque aussitôt que posées. Celle d'abord d'Arnaud Nouvel, ancien abbé de Fontfroide, dont le comte de Poitiers fit savoir clairement par Jean de Forez qu'il ne trouvait pas ce cardinal assez ami du royaume de France. Puis les candidatures de Guillaume de Mandagou, d'Arnaud de Pélagru et de Béranger Frédol l'aîné. Gascons et Provençaux se faisaient mutuellement échec. On apprit aussi que le redoutable Caetani commençait à écœurer une partie des Italiens et jusqu'à son propre cousin Stefanetti par la bassesse de ses intrigues et l'outrance démente de ses calomnies. N'avait-il pas suggéré d'un ton de plaisanterie, mais on savait ce que de tels propos valaient dans sa bouche, d'évoquer le diable et de s'en remettre à lui pour désigner le pape, puisque Dieu semblait renoncer à faire connaître son choix. À quoi Duèze, de sa voix chuchotante, avait répondu
« Ce ne serait pas la première fois, monseigneur Francesco, que Satan siégerait parmi nous. »
Si Caetani demandait une chandelle, on chuchotait aussitôt qu'il en voulait fondre la cire pour procéder à un envoûtement. Les cardinaux, jusqu'alors internement inattendus, s'étaient opposés les uns aux autres pour des motifs de doctrine, de prestige ou d'intérêt. Mais à présent, d'avoir vécu ensemble tout un mois dans un espace mesuré, ils se haïssaient pour des raisons personnelles, presque des raisons physiques. Certains se négligeaient, ne se rasaient ni ne se lavaient plus, et se laissaient aller à toutes les libertés de nature. Ce n'était plus par promesse d'argent ou de bénéfices que tel candidat cherchait à gagner des voix, mais en partageant ses rations avec les gloutons, acte formellement prohibé. Alors les dénonciations couraient d'oreille à oreille.
« Le camerlingue a encore mangé 3 plats de son parti !»
Si les estomacs, par ces compensations, parvenaient à peu près à se satisfaire, il n'en allait pas de même d'autres appétits. La chasteté à laquelle certains cardinaux avaient peu l'habitude de se soumettre commençait d'aigrir furieusement le caractère de quelques-uns. Une plaisanterie circulait parmi les provençaux.
« Si Doche est prêt à tout pour faire bonne chère, à Colonne il n'est cher qui ne soit bonne affaire. »
car les deux Colonna, l'oncle et le neveu, deux seigneurs athlétiques et mieux bâtis pour porter la cuirasse que la soutane, traquaient les damoiseaux dans les couloirs du couvent en leur promettant une bonne absolution.